Je suis d'origine chrétienne évangélique. J'ai été chrétien né de nouveau. Pendant l'enfance, je n'avais aucun problème pour croire. À cette époque, il ne me serait jamais venu à l'esprit que la Bible puisse ne pas être la parole de Dieu. Que le dogme auquel je croyais puisse ne pas être la vérité. Je reconnaissais Jésus comme mon sauveur et je croyais qu'il était mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité. J'étais certain d'avoir été sauvé et sûr que j'allais passer l'éternité auprès de Jésus-Christ. J'avais une bonne connaissance de la Bible et, entre guillemets, une relation personnelle avec Dieu. J'étais convaincu de vivre des expériences spirituelles avec Jésus et de le sentir dans mon cœur. Fin de citation. Telles sont les premières phrases d'un récit intitulé « Mon témoignage de déconversion » qu'on peut découvrir sur le site antireligion.net. Et les dernières phrases de ce témoignage sont les suivantes. C'est assez long bien sûr, mais je saute à la fin, à la conclusion. Aucune religion absolutiste n'était satisfaisante. Je considérais alors que la vie était un immense jeu de pistes et que le but était de vivre une aventure incroyable, de chercher des indices pour résoudre une partie de la vraiment passionnante énigme existentielle. Après cette phase agnostique déiste, je suis finalement devenu athée. » Fin de citation et de témoignage. Alors peut-être que vous avez connu, vous-même, ou entendu parler, de personnes dont la trajectoire a été similaire. Pendant un temps, ces personnes ont fait profession de foi chrétienne. Peut-être même étaient-elles très actives dans la vie d'une église. Mais quelque temps plus tard, elles ont tout lâché. Elles ont dit, ces personnes, qu'elles ne croyaient plus. Ou bien, sans le dire verbalement, c'est leur vie qui le disait à leur place. Et ce genre de choses arrive. À cela s'ajoute le fait que dans la Bible, on découvre parfois des passages qui semblent indiquer que des chrétiens peuvent, à un moment donné de leur vie, cesser de l'être. Que des chrétiens peuvent, à un moment donné de leur vie, cesser de l'être. Certains passages semblent indiquer cela. Par exemple, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. » Ou encore, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. » Ou encore, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ou encore, tout ça c'est des citations bibliques, hein, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, vous voyez des gens autour de vous se détourner de Dieu, vous lisez ce genre de passage dans la Bible, et par conséquent, vous vous dites, et si ça m'arrivait à moi ? Et il y a des chrétiens qui sont très perturbés par cette question. Et c'est parfaitement compréhensible. Alors, à cette question qu'on pose justement cet après-midi, peut-on perdre le salut ? On va voir aujourd'hui que la réponse de la Bible est la suivante. Il est impossible de perdre le vrai salut. Il est impossible de perdre le vrai salut. Et on va voir ça en trois points qui ont des sous-points. C'est pour ça qu'il y en a 14 en tout, mais en réalité, il n'y en a que trois principaux. Premièrement, on verra qu'il est impossible de perdre le vrai salut parce que le vrai salut repose sur quelque chose d'irrévocable. Deuxièmement, on verra qu'il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment. Il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans être vraiment sauvé. D'accord ? Et troisièmement, si tu veux savoir si tu as le vrai salut, regarde si tu as la vraie foi. D'accord ? Donc on va voir ça, ces trois points cet après-midi. Au bout du compte, on verra que la Bible veut corriger en fait deux tendances opposées qu'on peut observer finalement dans l'Église, dans les Églises, l'Église au sens large. L'une de ces tendances qui consiste à vivre dans la peur. Oh, si je perds mon salut ? Et si ça m'arrive à moi ? D'accord ? La Bible veut corriger cette tendance. Mais elle veut corriger une autre tendance qui consiste non pas à vivre dans la peur, mais à vivre dans la présomption. Ah, c'est bon. Je suis sauvé, je suis peinard, baptisé, je vais à l'église, c'est bon, tout va bien, je suis tranquille. D'accord ? Donc, en fait, la Bible veut corriger ces deux tendances opposées. L'une qui consiste à vivre dans la peur, l'autre à vivre dans la présomption. La vraie foi, en fait, on le verra tout à l'heure, ne consiste ni en l'une ni en l'autre. Alors, pour commencer, mon premier point, hein, il est impossible de perdre le vrai salut, car le vrai salut repose sur quelque chose d'irrévocable. Alors, question. De quoi parle-t-on quand on parle du salut ? Le salut, pour le dire simplement, hein, consiste en l'inversion de la malédiction d'Adam. On va faire un peu de voyage dans le temps. On va remonter à la création du monde et du premier homme et de la première femme. Dieu les a créés dans une situation idéale où il n'avait qu'un commandement auquel ils devaient obéir, ne pas manger du fruit que Dieu avait défendu. Vous connaissez l'histoire pour l'avoir entendu, bien sûr. Ève a été tentée par le diable et elle a à son tour tenté Adam. Adam a désobéi et a entraîné dans sa chute toute l'humanité. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, le jour où il en a mangé, il est devenu mortel. Il n'était pas censé être mortel. L'être humain n'était pas censé mourir. L'humanité est devenue mortelle et nous sommes tous tombés à la suite d'Adam. Ce qui veut dire que depuis le jour où Adam a péché, tous les êtres humains qui ont jamais existé sauf un, à savoir le Seigneur Jésus, ont été conçus dans le péché, sont nés dans le péché. Et ça veut dire que par nature, on est pécheur et séparé de Dieu, et destiné à subir les conséquences justes de nos fautes, c'est-à-dire à être éternellement séparé de Dieu. Et ça, c'est la peine éternelle de l'enfer. Mais le salut consiste en l'inversion de cette malédiction. Autrement dit, toutes les conséquences néfastes qui se sont abattues sur l'humanité en raison du premier péché sont inversées dans le salut. On est de nouveau spirituellement. On est justifié, pardonné de nos fautes, réconcilié avec Dieu. On est destiné à ressusciter pour vivre éternellement, corps et âme, dans une création entièrement renouvelée. Paul dit que le salaire du péché, il le dit simplement, il dit, c'est une formule, c'est toute simple. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Christ Jésus, notre Seigneur. Quand on a étudié cette question dans le cadre du catéchisme avec les enfants, ça va te rappeler quelque chose, ça va vous rappeler quelque chose, Michael et Timothée. On a pris une illustration, on a dit, en fait, il y a deux cars qui roulent sur l'autoroute. Et il y en a un, le chauffeur, c'est Adam. Et il se trouve que dans le car conduit par Adam se trouve toute l'humanité. Adam représente toute l'humanité. Et Adam, c'est un très mauvais conducteur. Et Adam, quand il prend l'autoroute à contresens, c'est toute l'humanité qui en subit les conséquences. Mais il y a un autre car qui est conduit par Jésus. Et Jésus, lui, dans son car, il a toutes les personnes qui sont sauvées. Et lui, il va dans le bon sens sur l'autoroute. Et c'est un très très bon conducteur, il n'aura jamais d'accident. Et il nous conduit vers la vie éternelle. Et donc le salut consiste à ne pas être dans le car d'Adam, c'est-à-dire ou alors à être plus précisément transféré du car d'Adam, qui est destiné à la ruine éternelle, et transféré dans le car de Jésus. Et au lieu que ce soit Adam qui nous représente, avec sa culpabilité, avec tout ce qu'il a fait de mal, c'est Jésus qui nous représente auprès de Dieu, avec tout ce qu'il a fait de bien, et son sacrifice qui expie nos péchés, qui nous permet d'être justifiés aux yeux de Dieu. Donc le salut consiste en l'inversion de la malédiction d'Adam. Mais sur quoi ce salut repose-t-il? Et avant de parler de ce sur quoi ce salut repose, parlons de ce sur quoi ce salut ne repose pas. Et le salut ne repose pas sur les performances des hommes. Autrement dit, ce n'est pas par nos performances que l'on peut s'extraire du quart d'Adam et monter dans le quart de Jésus. D'accord? Ce n'est pas par nos performances, ce n'est pas par des performances humaines, quelles qu'elles soient. La Bible est claire, notre salut ne dépend pas de nous. Ça veut dire que le salut ne repose pas, par exemple, sur des bonnes actions. On peut faire tout le bien du monde et on n'arrivera pas à se sauver. D'accord? Ça ne repose pas sur des sacrements, des rites de l'Église. Ça ne repose pas là-dessus. Ça ne repose pas sur votre baptême. Ça ne repose pas sur la Sainte Cène, votre salut. D'accord? Ça ne repose pas non plus sur des capacités intellectuelles. Quand on est très intelligent, ça ne veut pas dire qu'on a plus de chances d'accéder au salut. Ça ne repose pas sur les performances humaines. Donc ça ne repose pas non plus sur nos capacités intellectuelles. Ça ne repose pas non plus sur des sentiments. Ce n'est pas parce que j'ai des bons sentiments envers Jésus que forcément je suis sauvé. Ça ne repose pas non plus, tenez-vous bien, sur une décision de notre part. Ce n'est pas parce qu'un jour j'ai signé un papier qui dit « je donne ma vie à Jésus, signé telle date » que forcément je suis sauvé. En tout cas, mon salut ne repose pas là-dessus, ne repose pas sur ce document, ne repose pas sur ma décision. Notre salut ne repose même pas sur notre confiance, parce que même notre confiance est une performance humaine. Et si un jour je manque de confiance? La Bible dit que nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Un mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va pas faire grand-chose. Hein. On était morts par nos fautes et par nos péchés. Donc, Le salut ne repose pas sur les performances des hommes, c'est impossible. Alors sur quoi repose-t-il? La cause première du salut de tout homme est une décision irrévocable de Dieu. La cause première du salut de tout homme est une décision irrévocable de Dieu. Avant même la création du monde, Dieu, parce qu'il est Dieu, par nature, savait tout ce qui allait se passer, il est omniscient. Et non seulement il savait tout ce qui allait se passer, mais c'est lui-même qui a décrété, dans sa grande sagesse, sa sagesse infinie, qui a décrété tout ce qui allait se passer. La chute de Satan, la tentation d'Ève, le péché d'Adam, la chute de l'humanité, la malédiction de l'humanité et même de toute la création. Dieu avait décrété ces choses dans sa sagesse, dans sa souveraineté, lui qui opère tout selon la décision de sa volonté, c'est ce que nous enseigne la Bible. Dieu opère toutes choses selon la décision de sa volonté. Mais avant la création du monde, il avait aussi décrété autre chose. Il avait décrété le salut d'une partie de l'humanité, qui est appelée dans un passage de l'apôtre Paul, cette partie de l'humanité, elle est appelée ces hommes-là sont appelés des vases de miséricorde, que Dieu a d'avance préparé pour la gloire. Donc, avant même de créer le monde, Dieu avait décrété tout ce qui allait se passer, y compris le salut d'une bonne partie de l'humanité. Ces fameux vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Ceux-là, nous dit Paul, ont été élus, c'est-à-dire choisis, en Christ avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que Dieu crée la lumière, les ténèbres, le soleil, les étoiles, la terre, la mer, le ciel, les animaux. Dieu avait déjà, avant tout cela, élu, choisi de toute éternité, en Christ, une partie de l'humanité pour qu'elle soit sauvée. Je vais vous lire quelques versets qui vont vous montrer cela de façon très claire. Éphésiens 1, versets 4 à 6. Jonas a prêché là-dessus dans le cadre de sa série sur l'épître d'Éphésiens. Écoutez bien. « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Alors qu'est-ce que Dieu a fait par suite de cette décision de sauver des hommes? Eh bien, il a désigné Jésus. Et il l'a envoyé réaliser une expiation dont l'objet est précisément défini. Je répète, Dieu a désigné Jésus, son Fils éternel, et il l'a envoyé réaliser une expiation, c'est-à-dire l'œuvre de la croix où Jésus paye le prix des péchés de ceux qu'il veut sauver. Et cette expiation a un objet qui est précisément défini. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'éternité, avant la fondation du monde, avant la création du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour sauver ceux que Dieu a choisi de sauver. Ce qu'on appelle parfois dans la Bible les élus. D'accord ? Et donc, ainsi Jésus, lui aussi avant la fondation du monde, a été désigné d'avance, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre verset 1, chapitre 1 verset 20, et Jésus a accepté sa mission qui consistait à réaliser l'expiation des péchés des élus. Autrement dit, Jésus, il n'est pas mort pour tout le monde. Parce que si Jésus était mort pour tout le monde, ça voudrait dire forcément que tout le monde serait sauvé. Parce que Dieu ne va pas punir les péchés deux fois. Ce serait injuste. S'il a puni les péchés des hommes à la croix, il ne va pas les pécher une deuxième fois en enfer au jugement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la Bible est claire sur le fait que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, qu'il y a un vrai enfer, qu'il y a des vases de miséricorde, mais il y a aussi des vases de colère. Donc en fait, Jésus, il est mort à la croix pour un nombre précis de personnes, celles que Dieu a choisi de toute éternité de sauver. D'accord ? C'est ça que je voulais dire quand je disais que l'expiation de Jésus a un objet qui est clairement défini. D'accord ? Cette expiation, elle est attribuée. Enfin, comment tout cela se traduit-il dans la vie des hommes qui sont sauvés alors ? Eh bien, Dieu va donc mettre en œuvre des moyens efficaces pour attirer à lui ceux qu'il a choisis. Jésus a accepté sa mission, mais le Saint-Esprit aussi a accepté sa mission qui consiste à appliquer le salut aux élus. Donc Dieu, il a fixé d'avance le nombre de personnes qui seraient sauvées. Il sait précisément qui c'est, même avant qu'il crée le monde. D'accord ? Jésus est désigné d'avance pour réaliser leur expiation. Et le Saint-Esprit accepte aussi d'avance d'appliquer ce salut à toutes les personnes que Dieu avait choisi de sauver. Ce qui veut dire que puisque la dette des élus est payée à la croix, hein, l'expiation est attribuée clairement, précisément, ça veut dire que Dieu va forcément sauver tous ceux qui sont censés être au bénéfice de cette expiation. D'accord ? Tous ceux pour qui Jésus est mort. Il va les sauver, c'est sûr et certain. Écoutez ce que Jésus dit lui-même, Jean chapitre 6, verset 37 et suivant. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous avez entendu ce qu'il a dit au début, là ? Tout ce que le Père me donne viendra à moi, c'est sûr. Dieu les a choisis, il les a donnés au Fils. Le Fils est mort pour eux, le Saint-Esprit a accepté d'appliquer ce salut à leur vie, donc Dieu va mettre en œuvre les moyens efficaces qu'il faut, efficace et même irrésistible pour attirer à lui tous ceux qu'il a choisis. Est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui la liste des gens qui sont sauvés alors ? Est-ce qu'on peut avoir un registre où on peut mettre les noms des gens qui sont sauvés pour que vraiment on puisse savoir ? Eh bien non, la communauté des élus ne sera précisément révélée qu'au dernier jour. La communauté des élus, l'ensemble des élus, des personnes réellement sauvées, ne sera révélée qu'au dernier jour, en fait, au jour du jugement. Parce que d'après la Bible, c'est au jour du jugement que l'humanité sera clairement et définitivement départagée. Je vous renvoie par exemple à la parabole du bon grain et de l'ivraie, où Jésus dit qu'il y a du bon grain dans le monde, et puis ce sont les fils du royaume qui poussent, qui sont là. Et puis quelqu'un regarde et dit, mais il y a aussi de l'ivraie qui pousse dans ton champ, Seigneur. Est-ce qu'on doit aller l'arracher tout de suite ? Autrement dit, est-ce qu'on devrait faire la liste, hein, tout de suite, du bon grain et de l'ivraie ? Et le Seigneur dit non, laissez-les pousser ensemble, jusqu'au jour de la moisson, jusqu'au jour du jugement, et ce jour-là, on les départagera et on jettera au feu l'ivraie. Je vous renvoie aussi à cette image du livre de vie que l'on a, notamment à la fin du livre de l'Apocalypse. Un livre qui est ouvert au jour du jugement, et dans ce livre sont inscrits les noms des élus. Et tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont sauvés. Seulement, aujourd'hui, on ne peut pas aller à la bibliothèque emprunter le livre de vie pour vérifier qu'on est dedans. Ou que nos amis sont dedans. C'est pas possible. D'accord ? C'est seulement Dieu qui a accès à cette information, qui connaît cette information aujourd'hui. Donc on a pu voir dans un premier temps qu'il était impossible de perdre le vrai salut, puisque le vrai salut repose sur quelque chose d'irrévocable, à savoir une décision souveraine de Dieu qui précède même la création du monde. Le nombre des élus a donc été fixé de toute éternité. Les moyens de leur salut ont été déterminés et mis en œuvre de manière efficace. Ils seront donc au complet au paradis. Il n'en manquera pas un seul. Mais ayant dit tout ça, le problème, c'est qu'ici-bas, comme je l'ai dit, l'ivraie pousse avec le blé. Et il nous est impossible de distinguer l'un de l'autre d'une manière absolue. On peut avoir des indices, tiens, ça ressemble à du blé, ça ressemble à de l'ivraie. Mais il nous est impossible de distinguer de façon absolue le blé de l'ivraie ici-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire donc dans cette situation ? Comment savoir si soi-même on est sauvé ? Si on est du bon grain ou de l'ivraie ? Comment expliquer que des gens qui ont tout l'air d'être sauvés semblent parfois perdre leur salut en renonçant à la foi chrétienne. Et comment comprendre ces fameux textes bibliques qui semblent parler de gens qui effectivement perdent le salut ? Comment expliquer cela ? Alors, chaque chose en son temps. D'abord, il faut souligner une réalité dont parle la Bible et essayer de l'expliquer, d'y voir un peu plus clair. Et c'est mon deuxième point. Mon deuxième sur 3, pas sur 14. Et ce deuxième point, c'est le suivant. Il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment. Il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment. Je vais boire un petit coup. Alors premièrement, il est facile de faire le constat du caractère imparfait de l'Église ici-bas, n'est-ce pas ? Facile de faire le constat du caractère imparfait de l'Église sur Terre. Il suffit de regarder autour de soi. Manifestement, être actif dans la vie d'une Église ne constitue pas le gage de l'authenticité d'un disciple de Jésus-Christ. Manifestement, enfin peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pensé le contraire, mais je vous dis maintenant, hein, le fait d'être actif dans la vie de l'Église ne constitue pas le gage d'être un vrai disciple de Jésus. Il y a ceux qui viennent un peu, puis ensuite qui repartent sans jamais s'être engagés. Il y a ceux qui sont religieusement engagés, mais dont l'hypocrisie parfois est totalement manifeste. Il y a ceux qui sont attachés à l'Église par pure superstition, ou peut-être par pure tradition, mais il suffit de regarder leur vie et leur vie contredit notoirement leur profession de foi. D'accord ? Et le Nouveau Testament nous donne des exemples. Écoutez, ce qui se passe par exemple dans une des églises du Nouveau Testament, hein, l'église de Corinthe. Alors, l'église de Corinthe, c'était une église chrétienne, hein, l'église réformée évangélique de Corinthe. Mais je peux vous dire qu'il y en avait des problèmes dans cette église. C'était loin d'être l'église parfaite. Voici ce que dit Paul. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il y a donc des gens dans l'église qui ressemblent aux païens, même qui sont pires que des païens. Ils sont dans l'église pourtant. Puisqu'ils sont dans l'église, c'est pas non plus, ils ne sont pas dans une situation exactement identique à celle des païens. Parce qu'il y a les païens du dehors, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec l'église, et puis là, on a quelqu'un qui est dans l'église et qui est pire qu'un païen. Un peu plus loin dans le même chapitre, l'apôtre Paul ajoute ceci: « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges ?» Il y a une différence entre un païen qui est dehors et un païen qui est dedans. Enfin, pour Paul, en tout cas. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'Église ? Les gens qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas vraiment de vrais croyants, d'authentiques croyants. Alors, moi, je prétends dans cet exposé, parce que je pense que c'est ce qu'enseigne la Bible, je prétends qu'appartiennent à l'Église visible tous ceux qui participent à sa vie. Je prétends qu'appartiennent à l'Église visible, c'est-à-dire à l'Église ici-bas, tous ceux qui participent à sa vie. Mais je sais que les évangéliques ne sont pas tous d'accord avec ça. Certains préfèrent dire qu'il n'existe qu'une seule Église, l'Église invisible, qui n'est constituée que des élus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vérifier dans un répertoire qui est élu et qui ne l'est pas, cette Église-là, elle est invisible. Mais c'est la vraie Église. C'est l'Église universelle, l'Église au sens spirituel, l'Église que Dieu voit. Mais à mon avis, ce n'est pas exactement ce que la Bible enseigne. Oui, il n'existe qu'une seule Église, dont Jésus est le chef. Mais celle-ci existe actuellement, ici-bas, dans l'histoire. Et elle est imparfaite. Elle est l'Église constituée uniquement des élus sera révélée au dernier jour. C'est l'Église dite eschatologique. On la verra un jour, cette Église-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église ? C'est une Église qui existe sur terre, qui est visible, qui est historique, qui est imparfaite. Elle est constituée de tous ceux qui participent à sa vie, même si ces gens ne sont pas de véritables croyants. Cette réalité dure d'ailleurs depuis qu'existe un peuple de Dieu sur terre. C'est à mon avis ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre quand il écrit ceci, 1 Corinthiens 10. Et il prend l'exemple du peuple de Dieu de l'Ancien Testament et il l'applique au peuple de Dieu du Nouveau Testament. Il l'applique aux chrétiens de Corinthe. De l'église de Corinthe. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est un passage très important pour le sujet qui nous intéresse. « Frères, dit-il, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. fait référence au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a connu l'Exode, qui a traversé le désert, etc. D'accord ? Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. À votre avis, quand Paul parle des pères qui ont été baptisés en Moïse et qui ont mangé le même aliment spirituel et bu le même breuvage spirituel, il fait référence à quoi ? Il fait référence au sacrement de l'Église chrétienne, hein, le baptême, et il le dit explicitement, et le fait de manger et boire, breuvage spirituel, aliment spirituel, la sainte-cène, le pain et la coupe. Il est en train de faire un parallèle direct, explicite, entre la situation du peuple dans l'Ancien Testament et tout le peuple est sorti d'Égypte. Les grands, les petits, les faibles, les forts, les riches, les pauvres, ils sont tous sortis d'Égypte. Ils ont tous été baptisés. Ils ont tous mangé la manne dans le désert. Et en plus, ils buvaient un rocher spirituel, dit-il, qui était Christ. Ils étaient au bénéfice d'une grâce de Christ lui-même, de Jésus-Christ. Et pourtant, ils n'ont pas été agréables à Dieu, dit-il. Ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été jugés et châtiés dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Il est très important de comprendre cette idée, celle que j'ai essayé de vous montrer, que je disais, appartiennent à l'Église visible, tous ceux qui participent à sa vie. Il est très important de comprendre cette idée parce qu'elle nous aide à comprendre pourquoi des gens semblent perdre le salut et pourquoi la Bible semble parler parfois de gens qui perdent le salut. Il n'existe pas ici-bas d'Église parfaite. Il n'existe pas ici-bas de peuple de Dieu parfait qui représente parfaitement son chef Jésus-Christ. Le peuple de Dieu ici-bas, et cela, et c'est le cas depuis qu'il y a un peuple de Dieu sur terre, et bien le peuple de Dieu ici-bas, dans l'histoire, a besoin d'être émondé et sanctifié et édifié. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le peuple de Dieu sur terre. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, malgré tous ses défauts, malgré tous les incroyants, tous les hypocrites, tous les rebelles, tous les idolâtres, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était quand même le peuple de Dieu. C'était quand même le peuple saint. Ils ont quand même été baptisés en Moïse. Ils ont quand même mangé de la manne dans le désert et bu d'un rocher spirituel qui était Christ lui-même. D'où cette affirmation capitale. En tant que peuple de Dieu sur terre, je vais vous choquer là, je le sais, mais je vais m'expliquer après. En tant que peuple de Dieu sur terre, tous ceux qui font partie de l'Église ont une certaine relation à Jésus-Christ. En tant que peuple de Dieu sur terre, tous ceux qui font partie de l'Église, croyants, authentiques et hypocrites, tous ont une certaine relation à Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Jésus dans ce passage très connu, Jean chapitre 15. Où il dit qu'il est le cep, son père est le vigneron, d'accord ? Il dit, tout sarment, c'est-à-dire branche, je dis sarment, pas sarant, hein, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais il était où le sarment qui ne portait pas de fruit ? Il était en Christ. C'est ce qu'il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Le Père le retranche, il dit un peu plus loin, « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ils étaient où ces sarments ? Ils étaient en Christ. Et en fait, quand Jésus utilise cette image pour parler de lui-même, hein, de l'image de la vigne et du vigneron, il est en train de reprendre une image qui existe déjà dans l'Ancien Testament et qui désigne le peuple de Dieu, qui désigne Israël. C'est ce qu'on voit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 7. Je vous donne juste cet exemple. « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Peuple de Dieu, c'est la vigne de l'Éternel. Et Jésus s'identifie ici à Israël pour dire, le peuple de Dieu, c'est mon peuple en fait. C'est moi qui représente le peuple de Dieu auprès du Père. C'est moi le Messie. C'est ça qu'il est en train de dire tout simplement. Je viens ici en tant que représentant d'Israël, représentant ultime d'Israël. Je vais être obéissant à la place d'Israël. Je vais souffrir pour les péchés d'Israël au sens large, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu. Mais il dit quand même qu'il y a des gens qui vont être attachés à lui, mais qui vont être retranchés. D'accord ? Tous ceux qui sont dans l'Église visible, l'Église imparfaite, ont une certaine relation à Jésus-Christ, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient élus ou non. Et on a peut-être tendance à sous-estimer ce que ça veut dire, du coup, de faire partie de l'Église ici-bas. Ça fait déjà 30 minutes ? Ah ouais, oh là là. Je vais me faire tuer. Aïe, aïe, aïe. On a sûrement tendance à sous-estimer ce que ça veut dire que de faire partie de l'Église ici-bas. L'Église, dit Paul, et quand il dit l'Église dans ce passage que je suis sur le point de citer, il parle de l'Église visible, de l'Église telle qu'elle existe à nos yeux. Hein. L'Église, dit-il, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pas rien d'en faire partie hein, de l'Église. Faire partie de l'Église est extrêmement significatif car l'Église est dépositaire de la parole de Dieu et de toutes ses promesses. Notez par exemple la façon dont parle Paul des Israélites incroyants. Il dit qu'aux Israélites appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, dans Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Pourtant, il dit ça dans un contexte où il est en train de dire que ces gens-là ne sont pas sauvés. Il dit, mais quel malheur qu'ils ne soient pas sauvés alors qu'à eux appartiennent ces choses. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Mais combien ce statut est important, même si on n'est pas sauvé. Tous ceux qui font partie de l'Église, vrais croyants ou non, sont au bénéfice de plusieurs grâces de Dieu. La prédication de la parole, par exemple. C'est incroyable. Ceux qui viennent à l'Église régulièrement ne sont pas comme ceux qui viennent jamais. Parce que ceux qui viennent régulièrement, même s'ils ne connaissent pas personnellement le Seigneur Jésus, ils sont au bénéfice de certaines grâces. Ils peuvent entendre de leurs oreilles l'Évangile être proclamé, la parole de Dieu être annoncée. Ils sont au bénéfice aussi de la communion fraternelle. Ils viennent au repas de l'Église, par exemple. Ils savourent cette communion fraternelle, la communion de l'Esprit. Et même, ça se trouve, ils vont venir et ils vont participer au sacrement. Il y en a beaucoup qui sont baptisés et beaucoup qui vont même prendre la Sainte Cène. Mais c'est pas rien. Ils sont au bénéfice de certaines grâces de Dieu quand ils participent à la vie de l'Église. Et donc j'en viens au point le plus important de cet exposé pour comprendre ce que la Bible dit sur les gens qui semblent perdre le salut. Et ce point, c'est le suivant. Perdre le salut, parfois, on appelle ça l'apostasie, le fait d'apostasier, de renier le Seigneur Jésus, renier Dieu, apostasier. Ben, l'apostasie, c'est recevoir les promesses, mais ne pas y répondre par la foi. Apostasier, c'est recevoir les promesses, mais ne pas y répondre par la foi. On l'a dit, l'Église est mixte. Hein, est mixte parce qu'il y a des croyants et des non-croyants, il y a du bon grain et de l'ivraie. Tous ces membres de l'Église sont en situation privilégiée, bon grain et ivraie. Tous sont à part quelque part, ils ne sont pas comme ceux qui ne sont pas dans l'Église, ils sont donc au sens biblique saints, dans un certain sens de ce mot, à part, mis à part, ils ne sont pas comme les autres, tous reçoivent la parole, mais c'est à l'épreuve de la parole de Dieu que le cœur est révélé. D'accord ? À la lumière de tout ça, laissez-moi vous lire quelques passages rapidement. Hébreux 3, versets 7 et suivants. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. À qui est-ce qu'il parle Dieu là ? À son peuple. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frère, hein, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On reçoit les promesses, mais on n'y répond pas par la foi. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ. l'Église. Okay? Les païens qui viennent, quelque part, ils participent à certaines grâces de Christ. Hein? Si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle, à votre avis, c'est quoi en grec le mot? L'évangile. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Ils ont même reçu l'évangile. L'évangile leur a été prêché. Mais cette parole, et là en grec c'est logos qui est le mot, qu'ils ont écouté, ne leur servit de rien ou à rien, parce qu'ils ne l'ont pas reçu avec foi. Et ainsi on pourrait lire les passages qui sont parmi les plus difficiles de la Bible, Hébreux 6, versets 4 à 8. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Ce passage s'applique à des personnes qui participent à la vie de l'Église, qui participent à la vie de l'Église, et qui sont ainsi au bénéfice de certaines grâces, qui ont une certaine relation à Jésus-Christ. Mais parce qu'ils reçoivent la parole, ils reçoivent ces pluies fréquentes, mais n'y répondent pas par la foi, et par conséquent produisent des chardons et des épines, eh bien ils sont réprouvés. Mais en fait, ils n'ont jamais été sauvés. D'accord ? On n'a pas le temps, mais vous pourriez lire, noter ces références si vous le voulez. Hébreux 10, versets 26 à 29, et 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Si vous voulez, je vous enverrai mes notes, vous aurez les références. Donc il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment. D'accord ? Il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment. Cette réalité est souvent sous-estimée, à mon avis. Elle est souvent sous-estimée. Et c'est pourquoi le phénomène des gens qui, semble-t-il, perdent le salut ou qui perdent la foi, c'est un phénomène qui nous paraît étrange, qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais d'après la Bible, à mon avis, hein, ces gens avaient une certaine relation à Jésus, mais ils n'ont pas répondu à sa parole ni à ses promesses avec la vraie foi. Et là, je crois qu'il y a un avertissement, bien sûr, qui nous est destiné, hein, qui est destiné à tous ceux dans l'Église, en fait. Un avertissement qui est destiné à corriger notre présomption. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. D'accord ? Un avertissement général. On ne doit pas être présomptueux devant Dieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la vraie foi ? C'est le dernier point avec lequel on va terminer. Qu'est-ce que c'est que la vraie foi ? Je disais hein, tout à l'heure que mon troisième point, c'était si tu veux savoir si tu as le vrai salut, regarde si tu as la vraie foi. Alors dans sa définition la plus simple, la foi, c'est un attachement à Dieu qui vient de Dieu. D'accord ? Dans sa définition la plus simple, la foi est un attachement à Dieu qui vient de Dieu. On l'a dit, Dieu sauve efficacement ses élus. Nous étions morts par nos fautes et nos péchés. La foi ne peut donc pas naître d'elle-même, comme ça, spontanément, dans notre cœur, ni par nos propres raisonnements, qui sont tous empreints de péché. La foi vient forcément de Dieu, et il est capable, il est tout puissant, hein, c'est pas compliqué pour lui, hein, il est capable de mettre la foi dans le cœur de n'importe quel être humain qu'il choisit. Que ce soit un jeune, un vieux, un riche, un pauvre, un intelligent, un incapable, un analphabète, que ce soit un adulte ou un enfant, même un bébé, ou même un handicapé mental. Dieu est capable. Il peut sauver efficacement tous ses élus. Et il le fera. Non seulement il peut le faire, mais il le fera. Éphésiens 2, 8 à 10. Hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, etc. Hébreux 12, 2. Jésus est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. D'accord, ça c'est sa définition la plus simple. Mais comment savoir si on a cette foi qui vient de Dieu? Eh bien la foi, c'est une confiance qui s'apprend, qui grandit et qui se manifeste dans la façon dont on répond à la parole de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui est des gens dans l'Église mais qui ne sont pas réellement sauvés, c'est à l'épreuve de la parole que leur cœur est révélé. Parce qu'ils ne répondent pas à la parole et aux promesses par la foi. Mais à l'inverse, ceux qui ont la vraie foi vont répondre à la parole de Dieu, mais d'une façon différente. Alors mes enfants m'ont déjà demandé, « Papa, comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé ?»« Comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé ?» C'est dur comme question qui vient d'un enfant, ça. Surtout le sien. Ma réponse a été la suivante. Si en entendant parler de Jésus, si en découvrant qui il est dans la Bible, et en découvrant ce qu'il a fait, si alors tu as envie d'être sauvé, c'est que tu es sauvé. C'est simple. Si en découvrant la personne de Jésus, si à l'écoute de sa parole, en découvrant ce qu'il fait petit à petit, et tu en découvriras de plus en plus en grandissant, si ça ne fait qu'augmenter ton envie d'être sauvé, mais sache que tu es sauvé. Imaginez quelqu'un qui se regarderait dans un miroir, mais qui, en raison d'un trouble psychologique, ne se reconnaît pas. Et ça, c'est l'image de la personne qui est dans l'Église, mais qui ne répond pas à la parole de Dieu avec une vraie foi. Parce que la Bible est comme un miroir. On la lit, la Bible, le pasteur la prêche, on s'y regarde, et il est question de l'humanité déchue. Il est question du plan de Dieu pour sauver ses élus. Il est question de la personne, de la venue et de l'œuvre de Jésus. Il est question dans la Bible de la nécessité de se repentir de ses péchés. Il est question de la glorieuse espérance des croyants. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le miroir? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le miroir? L'homme qui a la vraie foi se reconnaît dans le miroir et il se fie à ce qu'il voit. D'accord? S'il se regarde dans le miroir et qu'il est mal coiffé, il le croit. S'il se regarde dans le miroir et qu'il a des épinards dans les dents, il le croit. D'accord? S'il voit qu'il a un loulou dans le nez, il le croit. D'accord? Et il va agir en conséquence. L'homme qui a la foi, il se regarde dans le miroir et il se reconnaît. Mais moi, je ne peux pas vous convaincre que c'est vous dans le miroir. Je ne peux pas. Si vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Voici ce que dit l'apôtre Jacques. Il est où, Jacques? Hop. Il est dans la table des matières, ça c'est vrai. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Voici ce que dit un pasteur réformé dans un article de la Revue Réformée, une bonne revue, un numéro de mars 98. Je cite, « La Bible fonctionne, j'ai trouvé ça super, la Bible fonctionne comme un miroir de l'âme. Celui-ci sert d'abord à s'examiner soi-même pour savoir si oui ou non l'on est dans la foi. Laquelle, c'est-à-dire la foi, se traduit en acte. Ce miroir nous montre ensuite les choses dont il faut se repentir, alors même que Christ est déjà en nous. L'exercice de la piété fait en ce sens partie de la pleine et concrète réalisation de notre salut. » Autrement dit, celui qui se regarde dans le miroir et qui, en raison d'une vraie foi, se reconnaît et se fie à ce qu'il voit, il va agir en conséquence. Voilà pourquoi Jacques nous dit aussi, dans la même épître, que la vraie foi porte du fruit. Et un de ces fruits, de la vraie foi, non, c'est compliqué, hein, un des fruits de la vraie foi, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Vous voulez savoir si vous êtes vraiment sauvé? Regardez dans le miroir. Encore une fois, personne ici ne peut vous convaincre que c'est vous, si vous ne vous reconnaissez pas. On peut vous le dire, mais ne peut pas vous convaincre dans votre fort intérieur. Mais est-ce que vous, vous vous y reconnaissez dans le miroir? Est-ce que c'est vous dans ces passages, comme celui-ci, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Est-ce que c'est vous? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Est-ce que vous vous voyez dans le miroir? Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ou encore, « en vérité, je vous le dis, » dit Jésus, hein, « celui qui croit à la vie éternelle. » Alors vous regardez dans le miroir. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que, à l'écoute des promesses de Dieu, en découvrant toujours davantage la personne et l'œuvre de Jésus, eh bien, est-ce que tu as envie d'être sauvé? Est-ce que tu as envie? Si oui, alors tu es sauvé. Tu es sauvé. En fait, si tu crains de ne pas être sauvé, c'est peut-être le meilleur signe que tu l'es, en fait, sauvé. Et rien ni personne ne pourra jamais t'arracher de la main de Dieu. Ni présomption, donc, « Ouais, c'est bon, moi, je suis blindé, c'est bon. Je le mérite bien, je le vaux bien, quoi. Je suis sauvé, moi. » Non, pas de présomption, mais pas de peur non plus. À la place, une vraie foi dont Jésus est l'auteur et il est aussi celui qui l'amène à la perfection. Alors, on récapitule très vite. Point principal, il est impossible de perdre le vrai salut. D'accord ? On a vu ça en trois points. D'abord, il est impossible de perdre le vrai salut, car le vrai salut repose sur quelque chose d'irrévocable, la décision souveraine de Dieu. Deuxièmement, il est possible d'avoir l'apparence d'être sauvé sans l'être vraiment, puisque l'Église visible, c'est un privilège incroyable, au bénéfice duquel sont plein de gens, des sauvés et des non-sauvés. Et troisièmement, si tu veux savoir si tu as le vrai salut, regarde si tu as la vraie foi. C'est bon ? Amen.